Nous allons faire trois lectures, s'il vous plaît, puis nous en ferons d'autres que je vous encourage à noter pour votre culte personnel. Je pense que c'est très, très, très sérieux, ces affaires-là. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, Dieu pose une question. Je vous ai dit maintes fois que Dieu posait souvent des questions. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 8. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 8e. La trompette, c'est la parole de Dieu. Vous savez que dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple se rassemblait, lorsque le peuple partait, lorsque le peuple devait combattre, etc., eh bien, c'était au son de la trompette. Donc aujourd'hui, la trompette dans le Nouveau Testament, c'est l'image de la parole de Dieu, combien elle doit être claire. Donc Dieu pose cette question, et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ? Si la prédication n'est pas claire, si les choses ne sont pas claires dans votre cœur, comment une église pourra-t-elle combattre ? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'au niveau de la prière, nous avons certainement des choses à apprendre. Dans le prophète Osée, c'est juste après les grands prophètes, il nous est reparlé de cette trompette. Osée chapitre 8, voilà, c'est après Daniel. Vous savez, Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, Ésaïe, Jérémie, tout ça, ces grands prophètes. Il y a ces petits prophètes qu'on appelle petits parce que Il y a peu de choses écrites, mais croyez-moi, ils ne sont pas petits par rapport à leur ministère. Osée chapitre 8, nous allons lire les 7 premiers versets et regarder ce qui se passe. Osée chapitre 8, verset 1er, c'est juste après le prophète Daniel. Embouche la trompette, l'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont violé mon alliance et transgresser ma loi. Ils crieront vers moi, « Mon Dieu, nous te connaissons, nous, Israël !» Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre, et des chefs sans se référer à moi. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront retranchés. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier ? Il vient d'Israël, un ouvrier l'a fabriqué. Ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Et le verdict est là, on le lit ensemble. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Voilà la parole de Dieu. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. La troisième lecture est dans Matthieu. Gardez ce texte, s'il vous plaît. La troisième lecture est également une parole de Jésus dans Matthieu chapitre 24, c'est le titre de ma prédication. Matthieu chapitre 24, verset 4, par rapport à des questions qu'on abordera tout à l'heure. Matthieu chapitre 24, c'est une parole très sérieuse que Jésus adresse. Ce matin, nous avons entendu parler de tendresse, que Dieu est plein de tendresse, que Dieu est plein d'amour, que Dieu est plein de compassion. Nous l'avons entendu dans tout ce qui a été dit, dans tout ce qui a été fait. Mais laissez-moi vous dire que Dieu aussi nous donne plein d'avertissements, parce que nous en avons besoin, et l'avertissement il est là, prenez garde que personne ne vous séduise. Voilà cette parole du Seigneur Jésus, c'est pas n'importe qui, c'est pas un apôtre qu'on appelle sévère qui l'a donné, quoi qu'il n'y a pas de pasteur sévère, il y a des pasteurs qui disent la vérité. Prenez garde que personne ne vous séduise. Si nous nous appliquions à partir de ce soir jusqu'à dimanche prochain, de noter les infos les plus grossières qui se passent. Nous entendrions à une semaine, c'est impensable tout ce qu'on noterait. Vous êtes d'accord avec moi ? Nous noterions, tiens, des pompiers se sont fait caillasser dans telle banlieue de ville en allant éteindre un feu. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous l'entendez ça ? Des policiers se sont fait écraser en faisant leur métier. Vous entendez ces choses-là ? Des policiers que l'on tue volontairement. Des choses terribles, des meurtres en direct. Vous apprenez qu'une jeune fille dans un quartier, dans une cave, a été violée et que ce viol a été filmé sur des téléphones portables. Est-ce que je vous apprends quelque chose ? Non, je ne vous apprends rien. Vous apprenez que des enfants se suicident. J'étais en train d'écrire ça quand ma fille est rentrée dans mon bureau vendredi pour me dire « Tu sais pas, papa, il y a une chrétienne, elle viendra apprendre que sa petite fille de 17 ans s'est suicidée. » Et nous apprenons des choses très grave. Ces choses-là, elles nous perturbent ou elles ne nous perturbent pas. Peut-être que vous vous protégez, que ça ne vous fait plus rien. Non pas que vous êtes devenu insensible, mais que vous en avez assez et que vous vous surprotégez, etc. etc. Vous apprenez que des jeunes sont torturés, etc., dans des conditions épouvantables, qu'on a démembré une jeune fille. Enfin, vous entendez, on entend ça en boucle sur les informations, etc., etc., etc. Des familles sont brisées. Et des familles seront brisées de plus en plus, vous le savez. Si la famille est brisée, c'est toute la société qui est brisée. Ça fait un peu social ce que je vous dis, mais écoutez bien, écoutez bien. Tout ce qui est établi en ce moment, tout ce qui est fait, vous voyez par exemple, j'entendais l'autre jour que la liberté d'expression aura de plus en plus sa place dans la télévision. Oui, c'est bien dit. Ça plaît à tout le monde ça. J'entendais aux infos, la liberté d'expression aura de plus en plus sa place à la télévision. Mais moi, vous savez ce que ça veut dire ? Qu'il y aura de plus en plus de violence, de pornographie, de sexe, de liberté d'expression tout le long de la journée. C'est ça que ça veut dire. Et nous sommes dans une société qui est en train de s'étouffer. Vous voyez, ceux qui devraient exercer une certaine autorité. Par exemple, est-ce qu'un enseignant, est-ce qu'un policier a le droit d'exercer l'autorité dans sa classe ou dans la rue où il est en faction ? Oui. Et il ne peut plus. Au nom des droits. Vous allez dire, monsieur Hugo, il s'est transformé en homme politique. Non, non, non. Je suis en train de vous expliquer quelque chose qui est en train de se passer dans notre société. Il y a des enfants qui sont capables de passer des heures sur des jeux vidéo avec de la violence. C'est impressionnant. Il y a des adolescents, je ne sais pas si c'est le cas pour vos enfants, qui regardent ces séries télévisées, vous savez, Friends, etc., etc. Bon, un jour, j'ai regardé pendant 10 minutes pour voir, afin que ce que je vais vous dire, je ne dise pas de bêtises. Mais ce que j'ai vu pendant les 10 minutes, une jeune fille fréquente un garçon, après elle couche avec, après ça se sépare, et puis elle prend avec un autre dans le même club des copains, et puis reste toujours bon copain. Mais ce n'est pas ça la vie. La vie, ce n'est pas ça. Et on nous impose ces choses comme si la vie, c'était ça, si c'était facile. Mais moi, je peux vous dire que la vie, c'est beaucoup plus grave que ça. Ça, c'est du cinéma. Et les adolescents sont baignés des heures dans cette scène où l'amour est libre, où la violence est gratuite. Et ne nous étonnons pas que ces choses amènent de plus en plus le chaos dans notre société. Vous avez vu ce qu'on a accepté cette semaine à Montpellier, etc., etc. Je ne veux pas polémiquer sur le mariage homosexuel. Mais je veux tout simplement vous dire que lorsque on sème certaines choses, on les récolte. Et notre société a semé le vent et notre société va récolter la tempête. Vous l'avez lu avec moi, c'est comme ça. C'est pour ça, mes frères, veillez sur vos enfants, veillez sur vos ados. Je ne sais pas si vos ados ont la télé dans la chambre, mais veillez à ce qu'ils regardent. Moi, quand j'entends certains parents qui me disent « Ah, mais mes enfants, ils regardent ça, ils jouent au Nintendo toute la journée des jeux de violence », mais ne vous étonnez pas si vos enfants sont insensibles à l'évangile. Je crois qu'il faut prier avec nos enfants, partager la parole de Dieu simplement, même 10 minutes avant d'aller au lit, partager certaines choses. Voilà, on a rejeté Dieu. Et le résultat, il est là. Et les choses ne vont pas faire en s'arrangeant, vous allez le voir avec moi. Et même les gens qui sont religieux sont dans une confusion pas possible. Alors nous, on a le souci de respecter la saine doctrine, mais j'ai appris, je l'ai dit l'autre jour, qu'il y a des églises qui ne sont plus aidées par les mairies, par les collectivités. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elles distribuent des repas et en même temps, elles distribuent l'évangile. Ou alors elles prient quand ils vont partager le repas. Alors on leur a dit, écoutez, si vous priez et si vous distribuez les évangiles, on ne vous accordera plus de l'aide. C'est comme ça que c'est en train de se passer. On est en train de détruire les familles, on est en train d'abandonner la foi. Alors, que Dieu nous demande d'occuper nos pensées. Vous connaissez ce texte, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est bon, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et Dieu sera avec vous. Et nous ne devons pas occuper nos pensées à des choses qui sont dégradantes. C'est pour ça que nous devons faire très attention à ce que nous regardons. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ce qui est en train de se passer. Prenez garde que personne ne vous séduise. Alors, à l'époque de Noé, vous savez comment c'était à l'époque de Noé ? Comment c'était à l'époque de Noé ? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment c'était ? Comment c'était? C'était bien du temps de Noé. Vous auriez aimé vivre du temps de Noé? Vous ne me répondez pas. Regardez avec moi dans la Genèse. Il faut lire ces choses. Parce que j'entends des fois sur Internet, j'entends même que dans les églises, on prophétise que quand Jésus va revenir, il y aura un grand réveil mondial sur la terre. Écoutez, moi dans la Bible, je n'ai pas lu ça. Je vais vous montrer ce qui est écrit, qui va se passer quand Jésus va revenir. Genèse, chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voilà ce qui se passait. Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Et venez avec moi maintenant dans Matthieu 24. Je sais que vous le connaissez. Mais peut-être en le mettant ensemble, ça vous fera réfléchir. Matthieu 24, on a lu tout à l'heure cette exhortation de Jésus. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et regardez ce qu'il dit au verset 37. Matthieu 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et au verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Alors c'est vrai que je vous parle de la société un peu, j'en parle jamais, mais là je vous en parle un peu pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. L'humanité s'est appliqué à tout faire pour sortir Dieu, vraiment Dieu, de la société. Tout. Alors, on n'a pas sorti la religion. La religion, de temps en temps, c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien, la religion? Mais en vérité, on a exclu Dieu. Et quand on lit l'Ancien Testament, on le voit, ils n'ont jamais abandonné la religion, mais laissez-moi vous dire qu'ils avaient abandonné Dieu, croyez-moi. Et cette semaine, je regardais, vous voyez, pour savoir un peu, pour comprendre, pas pour juger, pour comprendre. Je lisais un commentaire de Freud, parce que souvent on parle de Freud, et on disait, et vous voyez, pour expliquer tout ce qui se passe au niveau de l'homosexualité, et on disait, mais un enfant, il disait, voilà, ce qu'il disait, un enfant, il va naturellement chercher l'affection de sa maman. Un petit garçon peut aller chercher l'affection de son papa. Une petite fille peut aller chercher l'affection de sa maman. Donc c'est tout à fait normal qu'une fille soit lesbienne et qu'un garçon soit homosexuel, puisqu'après tout, mais voyez un peu où on en arrive. Et ça part sur des choses comme ça, et les gens gobent ça, et on finit au nom de l'égalité, au nom de l'amour, à accepter tout un tas de choses qui vont attirer la tempête et la colère de Dieu. Et c'est exactement tout ce qui est en... Je le résume, je le condense pour ne pas passer une heure à parler de ça. Mais mes frères et sœurs, c'est ce que dit exactement le psaume 2. Notez-le, lisez-le. Les nations se révoltent contre Dieu. On se rebelle. On va le lire. Psaume 2, regardez. J'aimerais qu'on lise quelques textes. J'aimerais que vous les relisiez chez vous et que vous priez surtout. Seigneur, parle-moi au travers de ces textes. Parle-moi. Voyez, c'est le psaume 2 est le psaume qui nous parle du retour de Jésus. Du roi Jésus qui va revenir régner. Et regardez comment ça commence, ce psaume. Vous savez qu'il y a plein de psaumes prophétiques. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Vous avez vu? Brisons leurs liens. On ne veut pas de ces liens de la religion. Nous, on veut de l'amour, on veut de l'œcuménisme, on veut de la tolérance, etc. On ne veut... Et voilà le monde où il en est. Vous avez vu quand même la réaction du Seigneur au verset 4. « Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. » Ne soyez pas impressionnés. Dieu règne au siècle des siècles. En tous les cas, une chose est sûre. Tout se prépare à la venue de l'Antéchrist. Tout est préparé. Je vais vous dire quelque chose qui m'a choqué dimanche dernier. Dimanche dernier, je parlais avec une chrétienne. Et voyez, on parlait, elle a commencé à ouvrir son cœur était rempli de ces choses-là, qui lui font beaucoup de mal. Et dans la discussion, elle m'a dit, vous savez ce qu'il faudrait, monsieur Gou? Il faudrait un homme comme, elle a dit ça, c'est pas méchant, mais je ne vais pas le citer, tiens. Il faudrait un homme comme tel général, qui redresse le pays. Et tout ça, c'est en train de rentrer. Et que vous le vouliez ou non, on se prépare à accepter la venue de l'Antéchrist. Tout est fait, tout converge. Alors vous, moi, on est épargnés. C'est pas vrai, c'est vrai qu'on est épargnés. On n'est pas épargnés, non? C'est vrai qu'on n'est pas bénis? Est-ce qu'on n'est pas bénis? Est-ce que Dieu va nous garder de la colère? Oui. Est-ce que Dieu va nous épargner? Oui, si nous restons fidèles. Nous le savons. Nous sommes profondément bénis. Vous le savez que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous le savez que ceux qui marchent avec Jésus-Christ seront épargnés de la colère. Vous pouvez dire Alléluia. Croyez-moi, c'est une grande bénédiction avec tout ce qui se passe de savoir que malgré le fait que tout converge pour préparer joyeusement la venue de l'Antéchrist, car croyez-moi, si on a crucifié Jésus, il est dit dans l'Apocalypse qu'on admirera, enfin pas moi, qu'ils admireront le diable, alors qu'il n'y en a qu'un qui aurait dû être admiré. Et vous le savez, on l'appellera admirable, mais on ne l'a pas admiré, parce qu'on n'en a pas voulu, on l'a crucifié. Mais l'Antéchrist, quand il viendra, vous le lirez dans l'Apocalypse, lui, il sera admiré. Et notre société s'engage là-dedans, et nous devons veiller, veiller sur nous-mêmes, veiller sur les autres, veiller sur nos enfants. Moi, je suis peiné quand j'apprends que la fille d'un chrétien s'est suicidée. Alors je juge pas, et que Dieu nous garde de juger. Judas, il s'est bien suicidé, pourtant il avait un bon pasteur. Judas, il avait quelqu'un de bien. Est-ce que vous croyez que, parce que l'amour de l'argent a détruit la foi de cet homme, c'est pas parce que quelqu'un s'est suicidé que les parents sont responsables. Je crois qu'il faut faire très attention. Attention à ça. Voyez, mon frère et sœur, ne tombons pas dans des pseudo-culpabilités, mais quand même, une chose est certaine, nous devons prendre garde à ce que personne ne nous séduise. Et moi qui n'aime pas ajouter des choses de la société dans une prédication, je l'ai fait pour que vous compreniez qu'en fin de compte, beaucoup de gens sont séduits, mais beaucoup de chrétiens sont également séduits. Cet homme, cette incarnation de Satan, il va arriver, vous avez vu tout ce qui se passe, à un moment ça va exploser, vous le comprenez. Et on va avoir besoin de quelqu'un qui a une main d'acier, et croyez-moi, tout converge pour cela. Alors nous, bien sûr que nous sommes épargnés, je le répète, bien sûr que nous, à cause du sang de Jésus, grâce au sang de Jésus-Christ, nous sommes épargnés de ces choses, que le nom du Seigneur soit béni. Nous le savons, qu'il a donné sa vie à la croix pour que nous soyons pardonnés, qu'il s'est chargé de la punition de nos péchés, etc., etc. Nous le savons, tout ce que Jésus a fait. C'est toute la raison de se réunir pour prendre le pain et le vin. C'est pas une bénédiction, cela? Quelle grâce de pouvoir savoir qu'on est épargné. Mais Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et je suis peiné. Je pense que ça vient beaucoup des pasteurs. Je pense que ça vient beaucoup de nous. Mais j'en suis convaincu, ce n'est pas de la fausse humilité, c'est la vérité. Je pense que nous n'osons pas peut-être dire des choses qui sont sévères. Mais il faut les dire. En plus, Jésus l'a dit, mais comment ça se fait? Vous arrivez à discerner l'état du ciel? Vous avez vu, vous savez que demain il pleuvra. Voyez, est-ce qu'on sait discerner l'aspect du ciel? On sait le discerner à peu près. Vous avez vu la météo, les progrès qu'ils font, c'est un truc de fou. Vous êtes d'accord avec moi? Mais Jésus va dire, mais vous savez discerner l'aspect du ciel, comment ne discernez-vous pas? C'est ainsi, d'autant plus que nous quand même, avec tout l'enseignement de la parole de Dieu, on est super informés. Comment ne discernez-vous pas? C'est ainsi. Comment cela se fait-il que dans les églises, il y ait de moins en moins de monde dans les réunions de prière, alors que pour moi, il devrait y avoir de plus en plus de monde dans les réunions de prière? Est-ce que j'exagère ou est-ce que c'est du légalisme? Pour moi, il me semble qu'on devrait veiller. C'est quelque chose que Dieu nous demande absolument. D'ailleurs, j'en parlerai mardi soir. Comment on doit prier? Mais il dit, mais veillez-y, persévérez dans la prière et dans le jeûne, veillez-y. Et je vois des chrétiens qui disent, oh, moi, prier, je ne sais pas pourquoi il faut prier. Écoutez, moi, je pense que des sujets de prière, mais il y en a des milliers des sujets de prière. Alors, ça devient très grave. On ne discerne pas. Alors, on se contente parfois de choses superficielles. Pour beaucoup de personnes, moi, je le vois. Ça fait 15 ans que je suis ici. Il y a des gens qui viennent, mais ils n'ont aucune foi en Dieu. Ils viennent pour se mettre Dieu de leur côté. En venant à l'église, si je viens à l'église, Dieu est avec moi. Certains en sont là. Vous avouerez que ça fait quand même de la peine. Des gens qui viennent par superstition s'imaginent qu'en venant à l'église, en prenant le pain et le vin, ils sont prêts. Tout ça, c'est d'une grande superficialité. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, il faut que la trompette ne rende pas un son confus. Il faut que la prédication, elle soit claire. Il faut que la Bible, quand vous la lisez, ce soit clair. Car si la prédication, elle est confuse, personne ne se préparera au combat. Et vous l'avez lu dans Osée, si on ne combat pas, l'ennemi, il fondra comme un aigle sur la maison de l'Éternel. C'est ça que nous voulons. Est-ce que vous voulez que l'ennemi fonde sur la maison de l'Éternel? Pourquoi il a fondu? Ben parce qu'on l'a laissé. On l'a laissé faire. Et vous avez vu dans l'Ancien Testament comment on a laissé l'ennemi faire. Et Dieu qui avait dit là seront mes yeux et seront mon cœur. Eh bien, il a été obligé de détruire le temple de Jérusalem. Ce sont des choses terribles. Oui, il y a beaucoup de confusion. Et à cause de cela, les chrétiens deviennent tièdes, les chrétiens deviennent faibles, les chrétiens ne servent plus. Vous leur demandez un service, ah ben ça c'est pas à moi de le faire, ah ben je suis pas payé pour. Mais je crois que dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, on est tous des serviteurs. Oui ou non? On est des serviteurs et des servantes. Et on se doit, mais c'est un plaisir de servir. Quand je vois dans les couples, ah non ça c'est mon mari qui le fait, moi je crois que quand on en arrive là, je crois que c'est grave. Mes frères et sœurs, beaucoup de chrétiens sont séduits et ils ne le savent pas. Et ils s'imaginent que tout va bien parce qu'ils sont dans une église où on prêche la vérité. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce que dans une église où on prêche la vérité que vous êtes prêts à rencontrer le Seigneur. C'est grave, hein? Moi je vous le dis que c'est grave. Quand je vois qu'un pasteur me disait dernièrement, on a annulé les réunions de prière, il n'y a personne, je suis tout seul à la réunion de prière. Alors j'ai arrêté les réunions de prière. C'est pas vieux ça, c'est le mois dernier. Je ne sais pas ce que ça vous fait, moi ça me fait de la peine. Parce que la maison du Seigneur, ça doit être une maison de prière. Oui, il y aura beaucoup de confusion. Et il y a beaucoup de confusion. C'est écrit, hein? c'est pas moi qui l'invente. C'est écrit, pourquoi? Parce qu'on en arrive, même dans des églises, à ne pas être capable de séparer le bien du mal. On n'est pas capable de séparer le profane du saint. Et je vous dis ce que je vois. Même parmi nous, il y a des chrétiens qui sont incapables de séparer le bien du mal. Je peux vous dire que c'est loin. Ça va loin. Et le verdict est terrible. Vous savez le nombre de fois où Jésus va dire à des chrétiens, en ce qui concerne l'avènement ou l'enlèvement, retirez-vous de moi. C'est écrit ou c'est pas écrit? Retirez-vous de moi. À des hommes d'ailleurs, à des hommes qui faisaient des choses extraordinaires. À une catégorie même d'hommes qui faisaient des miracles, des prodiges, parce que ça on est d'accord. La sainteté, pas trop. Mais les miracles, oui. Des chrétiens, ils sont là. Et ils s'imaginent qu'ils sont spirituels parce qu'ils veulent voir de grandes choses. Mes frères et sœurs, Jésus a dit à des pasteurs qui faisaient des miracles, etc., retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. C'est terrible. Et dans Matthieu 24, je vous le lis, verset 4, ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Alors peut-être que vous... Et moi, nous disons, mais non, nous, on ne se fera pas avoir. C'est ça que vous dites? Non, nous, on est fort, on ne se fera pas avoir. Oui, on peut être fort. On peut être fort si on obéit à la parole de Dieu. Et de plus en plus de chrétiens veulent un évangile édulcoré. Moi, combien de gens m'ont dit, mais monsieur Gauve, vous nous remettez trop en question. Nous, on préfère les églises où on chante, où on danse. On me l'a dit, ça. Je n'exagère en rien. Je crois que nous sommes arrivés à ce temps de la fin où Jésus a dit, vous savez quand Jésus a dit plusieurs viendront disant c'est moi qui suis le Christ, mais vous croyez que c'est que dans les sectes où des farfelus vont se faire passer pour le Christ? Laissez-moi vous dire que dans beaucoup de nos églises, on accepte ce Christ qui propose un évangile édulcoré, qui fait du bien à tout le monde. On parle de ce Jésus, mais surtout, ne parlez pas de repentance. Moi, dans une église où j'ai prêché, on m'a dit, monsieur Gau, s'il vous plaît, ne parlez pas de repentance. Alors j'ai dit, écoutez, voilà, renvoyez-moi, je reprendrai l'avion s'il faut, mais je prêcherai ce que j'ai à prêcher. On me l'a demandé. Et je peux vous dire, ce sont ces églises où il y a un autre Christ, c'est un autre Christ, où on fait rentrer les gens par les sentiments, il n'y a pas de mal à avoir des sentiments, mais on n'entre pas dans le royaume de Dieu avec des émotions et avec des sentiments, on entre dans le royaume de Dieu par la repentance. Et après la repentance, on marche dans la sanctification. Les gens croiront à cet évangile-là, à cet évangile édulcoré. Voilà, nous on veut un Jésus, mais qui ne nous dérange pas, qui dorme. Voilà, je vous assure que c'est grave. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Si vous voulez, on n'a pas le temps parce que je sais que l'heure tourne, vous lirez dans Jérémie 5, Jérémie 14 et Jérémie 29. 5, 14 et 29. Et vous verrez ce que Dieu dit des faux prophètes, de ces prophètes qui vous séduisent et qui mais tout va aller bien, tout va aller de mieux en mieux, les églises vont être bénies, l'an prochain on sera au Stade de France. On l'entend ça. Oui, ils seront au Stade de France, mais pour un match, pas pour prier, croyez-moi. Et nous sommes dans, séduits par cet évangile de prospérité. Il y a des églises, on n'entend que ça. Dieu va vous faire prospérer, donnez de l'argent, donnez votre dîme, et Dieu vous fera prospérer. Voilà, on n'entend que ça. Voilà, vous allez voir, vous allez prospérer, vous allez être bénis, vous allez faire des progrès. Moi, je crois que Dieu bénit. Je crois qu'il y a des bénédictions sur la tête des justes. C'est écrit. Mais cet évangile de facilité, cet évangile de permissivité, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tout est permis. Tout est permis. C'est écrit ? Oui, si, c'est écrit. Si, c'est écrit. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Madame Lucuni, vous viendrez me voir, s'il vous plaît. Voilà. Tout est permis, mais elle a raison, c'est pas vous. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est Madame Chapeau ? Madame Chapeau, je veux vous voir à la sortie. Mes frères et sœurs, cet évangile-là, il est rentré dans le royaume de Dieu. Écoutez bien, on vient de rire parce qu'on se connaît, et c'est bien, parce qu'on a beaucoup de joie d'être ensemble. C'est pas vrai? Combien on est heureux d'être ensemble, Madame Lucuni ou Madame Chapon? C'est vrai qu'on est heureux. C'est pas vrai qu'on est bien ensemble? On est heureux ensemble. Mais quand même, l'Église, c'est pas Sainte-Agne. L'Église, c'est tout le corps de Christ. Et nous ne pouvons pas être indifférents à tout ce qui se passe à côté. Quand on voit ce mélange, cette permissivité, quand on voit des églises où on accepte vraiment maintenant l'homosexualité, où on accepte de baptiser les gens, même s'ils ne sont pas convertis, même s'ils ne sont pas axés, parce que, etc., etc. Mais on est vraiment dans la confusion. Alors ça vient par tout ce que je viens de dire, ça vient par le refroidissement des cœurs. Jésus ne l'a-t-il pas prophétisé à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc il faut pas rêver. Si un cœur est refroidi, vous comprenez bien qu'il va pas être dans le discernement. Plus un cœur se refroidit, plus il est dans l'aveuglement, plus il est dans la confusion. Lorsqu'un chrétien flirte avec l'iniquité, c'est pour ça que je vous parlais de certaines choses dans la société qui sont extrêmement graves. Veillez à ce que vos enfants regardent ces histoires de flirt là avec ses copains, ses copines. Moi, j'ai regardé, mais c'est grave. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Ça paraît marrant parce que derrière, il y a des bruits de rire, etc. Mais je peux vous dire que ça détruira nos enfants. Je vous l'ai dit. Et à cause de l'iniquité, si nous acceptons certaines choses, si nous tolérons le péché dans notre maison, eh bien, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons être bouillants pour le Seigneur. Jésus va bientôt revenir. Vous croyez vraiment que Jésus va revenir? Est-ce que vous ne croyez pas que ça serait merveilleux qu'il nous trouve tous bouillants pour lui, fervents pour lui, remplis du Saint-Esprit pour lui, à cause de l'iniquité? L'amour du plus grand nombre se refroidira. Voilà comment sera l'Église. C'est Jésus qui a prophétisé. Vous croyez qui? Les paroles de Jésus ou les paroles de ces faux prophètes qui prophétisent la prospérité et l'abondance? Moi, je crois que Dieu, je le répète, gardera tous les fidèles. Et quand même au temps de la famine, j'ai prêché là-dessus un mardi soir, il n'y a pas longtemps, au temps de la famine, Dieu gardera les fidèles. Mais la famine, c'est aléatoire, dans le sens où dans certains endroits, il y aura la famine, et dans d'autres endroits, il y aura les excès du manger et du boire. C'est écrit comme ça, ou c'est pas écrit? C'est écrit. Et les cœurs seront appesantis par les excès du manger et du boire. Alors si Dieu vous donne à manger, à boire suffisamment, est-ce que c'est une bénédiction? Mais bien sûr que c'est une bénédiction. Peut-être que vous avez le congélateur plein, peut-être que vous avez le frigo plein, peut-être que vous avez une armoire pleine de nourriture. Est-ce que c'est une bénédiction? C'est une bénédiction. Mais il ne faut pas que ces bénédictions provoquent un appesantissement des cœurs. Car Jésus a dit, oui, il a dit qu'il y aura des famines. Et il y en a, hélas. Il y en a. Mais en même temps, dans notre Occident, les gens sont gavés et à cause de cela, ils sont appesantis par les excès du manger et du boire. Mais merci Seigneur si on est dans l'abondance. Mais l'abondance, ça ne devrait pas nous appesantir. L'abondance, ça devrait nous pousser à servir Dieu. Je pense que vous le voyez comme moi. Il y aurait beaucoup de choses à dire, on pourrait faire toute une prédication là-dessus. La confusion, parce que les gens ne veillent pas. Les gens ne veillent pas. Vous l'avez lu dans Matthieu 24. Jésus dit, mais les gens seront pareils. Ce qui est arrivé, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même du temps du Fils de l'homme. C'est une prophétie. La terre était remplie de violence. Vous avez vu? Quand on tue un homme dans la rue à coups de machette, ben c'est, Et vous allez voir, je le dis, ne pensez pas que je fais une fixation là-dessus. Mais le fait qu'on ait accepté le mariage homosexuel, ça va ouvrir des mauvaises portes. C'est pour ça qu'il faut rester sous le sang du Seigneur. Il faut demander à Dieu qu'il nous protège. Quand Dieu nous demande, on le verra mardi soir, mais quand Dieu dit, mais délivre-nous du malin. Je ne sais pas si c'est une prière que vous faites de tout votre cœur. Vous savez, dans le Notre Père, quand il est dit, délivre-nous du malin. Il faut se placer sous le sang du Seigneur. Il faut le faire. C'est un acte de foi. Quand vous sortez, il pleut, vous mettez un parapluie, vous vous protégez physiquement, vous vous protégez de la pluie. Et quand, par la foi, vous dites, Seigneur, je réclame ta protection sur mes enfants, bien sûr qu'on peut le faire d'une manière superstitieuse. Ça, c'est sûr que ce n'est pas bien. Mais on peut le faire par la foi et dire, Seigneur, nous nous plaçons par la foi sous ton sang précieux. Que ma maison, que ce temple soit protégé par ton sang précieux. On peut le faire. Ce n'est pas de la superstition. Ça peut être fait par la foi. Oui, les gens ne veillent pas à cause de l'insouciance. Vous connaissez la parabole des dix vierges ? La prophétie des dix vierges. La prophétie des dix vierges. Voilà l'insouciance. L'insouciance totale. Parce qu'il n'y a pas assez d'huile. Voilà. Des folles, tout simplement parce qu'ils n'ont pas veillé à leur communion avec Dieu. Cette affaire d'huile, acheter de l'huile. Tout est gratuit dans le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas parce que c'est gratuit qu'il n'y a pas d'effort à fournir. On le voit souvent, acheter du vin et du lait. Acheter de l'or et de l'argent, acheter des vêtements blancs, acheter un collier, acheter de l'huile. Qu'est-ce qu'il dit ailleurs ? Acheter, je cherche de l'or éprouvé par le feu. Acheter, et quelqu'un dira, mais c'est gratuit ou c'est pas gratuit ? Mais le verbe acheter nous rappelle toujours qu'il y a des efforts à fournir pour être en communion avec Dieu. Pour avoir de l'huile, il y a un effort à faire, le matin ou le soir, ou quand je veux, mais en tous les cas je le fais, je prends un moment pour que ma lampe se remplisse, pour mon esprit se remplisse d'huile. Et voilà, il n'y a pas assez de vie de l'esprit, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de vie de l'esprit. Je l'ai dit maintes fois, je l'ai mal dit, c'est pas grave. Mais il y a des chrétiens qui parlent en langue, ils n'ont aucune vie de l'esprit. Vous allez dire, mais c'est contradictoire. Non, croyez-moi. Il y a des gens qui parlent en langue et on apprend qu'ils sont grossiers. Ça va vous faire frémir. Il y a bien une confusion là-dedans, dans cette affaire. Il y a des choses à dire, il y a de quoi pleurer. Croyez-moi, cette prophétie des dix vierges nous parle de celles qui étaient prêtes et nous parle de celles qui n'étaient pas prêtes. Elles étaient ensemble. Et c'est vrai que dans le royaume de Dieu, à la fin, l'Église sera dans une telle confusion que ce sera comme ça. Les chrétiens qui seront prêts seront avec les chrétiens qui ne sont pas prêts. C'est ce qui se passe quand Jésus parle au pasteur. Vous avez fait des miracles, mais je ne vous connais pas. Cette confusion, elle est rentrée dans le royaume de Dieu. Et nous devons absolument veiller. Et c'est en faisant de sorte que la trompette soit claire que les chrétiens vont réagir. Ce sont des choses sérieuses, mes frères et sœurs. Dieu parle, c'est Jésus qui a donné la parabole des dix vierges. C'est pas un pasteur comme ça ou un prophète qui a dit, tiens, je vais donner une parabole, tout ça pour me faire plaisir. C'est une prophétie pour que nous soyons vigilants, pour que personne ne nous séduise, pour que nous réagissions et que nous soyons capables de dire, mais où j'en suis ? Dans quelle catégorie je suis ? Est-ce que je suis dans la catégorie des vierges sages ? Ou est-ce que je suis dans la catégorie des vierges folles ? Parce que les vierges folles, elles étaient folles, elles n'étaient pas si folles que ça. Elles étaient spirituellement folles. Parce que Jésus a utilisé ce terme pour expliquer que c'est de la folie de ne pas vouloir avoir de l'huile dans son cœur. Et Jésus nous a tout averti. Et qu'est-ce qu'il a dit à ces vierges folles ? Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Pourtant, elles n'attendaient pas le maître ? La parabole des dix vierges, c'est quoi ? C'est pas des filles qui attendent la venue de l'époux ? Est-ce que c'est pas une prophétie sur la venue de Jésus ? La parabole des dix vierges, c'est vraiment une parabole qui concerne la venue du maître. Et qu'il y a des chrétiens qui attendent le maître et qui pourtant ne sont pas prêts. Parce qu'ils font les choses à leur guise, à leur idée. Moi, je fais comme je veux. C'est pas un pasteur de me dire ce que j'ai à faire. Eh bien, moi, je vous dis que c'est pas vrai. Je pense qu'un pasteur, il a à vous dire ce que vous avez à faire. Surtout si ce qu'il vous dit est biblique. Si je vous dis quelque chose qui n'est pas biblique, ne le recevez pas. S'il y a quelque chose dans ma prédication qui n'est pas biblique, dites ça, j'en veux pas. Vous avez raison. Mais si ce que je vous dis est biblique et que vous ne le faites pas, vous ressemblerez à ces vierges folles qui ne veulent pas de la parole de Dieu. Oui, ces vierges folles représentent les chrétiens qui ont accepté Jésus pour sauveur et qui ne l'ont pas accepté comme Seigneur. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, je veux bien un sauveur qui me protège, qui me garde, mais je ne veux pas un Dieu qui me commande et qui me dise ce que j'ai à faire. Voilà. Ces vierges folles représentent tous les chrétiens qui sont dans la confusion. Quand on commence à dire pour que les choses changent, il faudrait avoir un homme comme lui pour diriger le pays, moi, je pense qu'on est dans la confusion. Je pense qu'on a besoin de revenir à la parole de Dieu, que les chrétiens veillent, qu'ils écoutent la parole de Dieu et que tout ce qu'ils peuvent faire, ils le fassent. Les vierges folles représentent tous les chrétiens qui aiment Dieu et qui en même temps respirent l'atmosphère mondaine. Voilà, ils croient dans la promesse, ils croient. Je suis sûr que si vous êtes ici ce matin, si vous êtes baptisés, vous croyez tous que Jésus va revenir. Oui ou non? Vous croyez tous que Jésus va revenir. Mais ce n'est pas parce qu'on croit que Jésus va revenir qu'on est prêt à son retour. Et si on vit dans la mondanité, il est clair qu'on n'est pas prêt. Il y a des chrétiens qui croient en Dieu, mais Jésus n'est pas leur Seigneur. Et je nous pose la question, à vous et à moi, Jésus est-il notre Seigneur? Est-ce que c'est lui qui dirige ma vie? Vous pouvez répondre dans votre cœur? Qu'est-ce que vous répondez? Je ne veux pas savoir, à moins que vous ayez besoin d'en parler. Mais est-ce que vous pouvez dire, oui, c'est Jésus qui dirige ma vie? C'est pas moi, c'est sa volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, vous connaissez la suite, que ta volonté soit faite. Et quand le nom du Seigneur n'est pas sanctifié, il ne faudra pas croire qu'on va pouvoir arriver à faire la volonté du Seigneur. Vous savez, tout ce que Jésus a dit, tout est pesé. Jésus n'a pas dit une chose, puis oh ça j'aurais pas dû le dire. Quand Jésus a dit quelque chose, il l'a dit, c'est la vérité. Vous le croyez qu'il est la vérité, hein? Il l'a dit, je vous ai tout annoncé à l'avance. Ce matin, nous voyons des choses sérieuses, parce que moi, je suis peiné de voir que même dans l'assemblée où Dieu m'a mis pasteur, il y a des chrétiens qui sont mondains, qui n'en ont rien à faire de la seigneurie de Jésus-Christ. Eux, ils veulent le salut, ils veulent être bien. C'est bien d'être avec des chrétiens qui sont prêts. Est-ce que c'est bien d'être avec des chrétiens qui sont prêts? D'être en contact avec des gens qui sont spirituels, est-ce que c'est bien? Non? Mais il y a des chrétiens, un jeune de l'église me disait il y a quelque temps, vous savez, monsieur Gault, des fois, on se réunit avec des chrétiens. Le soir, on prend une pizza, on mange, on parle jamais du Seigneur. On prie jamais ensemble. On parle de la dernière PlayStation, on parle de ci, du dernier film, du dernier Iron Man, etc. Mais on parle jamais de Jésus. Sans commentaire. Si vous en êtes là, repentez-vous. Moi, je vous le dis parce que Jésus va revenir. Et comme je l'ai souvent dit, je ne veux pas qu'un jour vous disiez, monsieur Gault, vous auriez pu être plus sévère. Vous auriez pu nous dire les choses plus précisément. Vous auriez pu faire en sorte que la trompette soit un peu plus claire. Vous avez eu des prédications confuses et ça ne c'est pas bien. Si on n'est pas prêt, parce qu'il y a des endroits où ça va arriver, où des chrétiens ne seront pas prêts à cause des pasteurs. Vous allez me dire, oui, mais chacun a sa Bible, c'est vrai. Mais il n'empêche qu'on peut être des ouvriers d'iniquité qui ont fermé la porte au royaume des cieux. Oui, la tempête. On a lu dans Osée chapitre 8, la tempête. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons subir cette tempête ou nous voulons être protégés de la tempête? Bien sûr que je connais votre réponse. Mais dans la tempête, nous devons garder notre vêtement propre. Qu'est-ce que dit Jésus? Luc 12, 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Voyez? C'est ça, il faut veiller. Ce matin, nous disons, mais est-ce que je veille? Est-ce que j'ai cette vie de communion avec Dieu qui me permet de veiller? Voyez une des ruses du diable. Une des ruses du diable. On va la lire dans Jacques au chapitre 4. J'en ai souvent parlé, mais ça fait rien. C'est une des plus grosses ruses du diable. Je le pense aujourd'hui. Dans Jacques au chapitre 4, c'est très très bien expliqué. Regardez, vous savez que l'épître de Jacques, c'est vraiment la vie chrétienne dans l'aspect le plus pratique qui soit. Jacques chapitre 4, verset 4. Lisez avec moi. C'est dans le contexte de la prière, des luttes inutiles, etc., des combats, et des prières qui ne sont pas exaucées. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et aujourd'hui, des faux prophètes qui vous disent qu'on peut être chrétien tout en étant mondain, etc., croyez-moi, vous en aurez. Dieu nous a mis dans le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne va pas rappeler Jean 17. Mais mes frères et sœurs, Il y a des gens qui aiment plus le monde que Dieu. Il y a des gens qui aiment plus le match de foot que la réunion de prière. Aller au cinéma, ils ne seront pas crevés pour aller au cinéma. Mais aller à la réunion de prière, ça, ils seront fatigués. Et quand il faut choisir, on a vite choisi. Pourquoi ? Parce qu'on aime le monde plus que Dieu. Et Dieu dit que celui qui veut se rendre ami du monde, il se rend ennemi de Dieu. Ça ne peut pas être plus clair. Pour être prêt, il faut vivre dans la sanctification. C'est quelque chose d'imparable. Un chrétien qui est prêt, c'est quelqu'un qui vit dans la sanctification. Vous vous rappelez dans les 7 textes où Jésus parle des pleurs et des grincements de dents. À un moment donné, il y a la parabole du festin des noces. À cette noce, on articule souvent dans l'évangélisation par rapport à ceux qui s'excusent. Ils s'excusent, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Mais en vérité, cette parabole, elle est pour expliquer qu'il y en a un qui a accepté l'invitation. Il a accepté l'invitation. Mais il se retrouve au festin des noces, bien sûr, c'est une image. Il se retrouve au festin des noces et on va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas revêtu l'habit de noce. Jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Cette parabole du festin des noces, elle est pour expliquer qu'il y a plein de gens qui acceptent l'invitation. Oh, c'est merveilleux, venir à l'église, c'est merveilleux. Voilà. Mais ils n'acceptent pas le vêtement blanc. Ils n'acceptent pas la sanctification. Et vous le savez, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors, je vois que le retour, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on terminera mardi soir. Mes frères et sœurs, vous savez, moi, j'ai à cœur, vous le savez, ça fait des mois que je vous prêche sur le repos et l'importance d'être comme ces deux animaux qui sont attachés ensemble et qui ne peuvent pas faire autrement que de servir ensemble. Car lorsqu'on attelait deux bêtes ensemble, c'était pour qu'elles soient unies et pour qu'elles aillent servir ensemble. Donc, ce service, Jésus dit, mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est une des ruses du diable aussi de nous faire croire que si on sert Dieu, on va être épuisé. Ce n'est pas vrai. Jésus a dit, mon joug est doux et mon fardeau léger, vous le croyez vraiment? Et voyez, alors on pourrait parler d'autres ruses, le retour de, et je peux pas terminer. Il y a des choses, j'y reviendrai. La seule alternative, c'est d'emboucher la trompette. Vous avez vu quand Dieu, l'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel. Embouche la trompette. Et mes frères et sœurs, aimons la prière, aimons la sainteté, aimons persévérer ensemble dans la prière. Je sais que c'est difficile de se garer, mais mes frères et sœurs, le mardi ou le midi à 12h30, on a un moment d'intercession. Chez vous, combattez le bon combat. Je crois, mes frères et sœurs, que si le Seigneur nous a donné une vie d'église, il faut qu'on persévère dans la prière. Ce n'est pas interdit de venir même avec vos enfants. C'est pas grave si un enfant, il marmonne un peu pendant la prière. C'est pas grave. Moi, j'ai vu des réunions de prière. Moi, j'ai vu, quand j'étais à Groyer, les parents venaient avec les enfants, avec les petits, et pendant une heure, on priait tous ensemble. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est un exploit de venir avec ses enfants et de prier? Moi, je crois que non. Je crois. Que d'excuses on trouve. Quand on veut aller à Buffalo Grill, manger une grillade avec les enfants, c'est pas facile non plus. Et pourtant, on y va quand même. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et je crois qu'il ne faut pas, je ne veux pas dramatiser, mais je veux surtout exercer ma responsabilité de pasteur. Mes frères et sœurs, l'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel. Et la seule alternative, c'est une église qui veille, une église qui prie, une église qui a des prières de foi, une église qui ne craint pas, une église qui dit, mais c'est vrai, on est protégé. Je le répète, mes frères, nous sommes protégés, nous sommes gardés, nous sommes bénis, nous sommes favorisés. Plein de textes bibliques que je cite par cœur. Mes frères et sœurs, vous le savez. Alors cette grâce, cette protection, cette faveur, cette bénédiction, va-t-on l'utiliser pour nous endormir? Ou cette faveur, va-t-on l'utiliser pour servir le maître et faire en sorte que dans nos familles, on ne récolte pas la tempête, mais dans nos familles, on récolte la bénédiction parce que nous serons de ces hommes et de ces femmes qui amèneront la bénédiction sur nos maisons. Car nous sommes appelés à bénir, on n'est pas appelés à maudire. L'autre jour, je me suis fâché avec une chrétienne, enfin une chrétienne, elle n'est pas. Elle n'est pas chrétienne. Je lui ai dit, mais vous maudissez les églises, vous ne pouvez pas avoir la bénédiction de Dieu. Nous sommes appelés à bénir. Alléluia. On va prier. Priez pour moi pour mardi, parce que je veux continuer et expliquer comment prier. Il y a des gens qui ne savent plus comment prier. Il faut l'expliquer. On va prendre le Notre Père mardi soir et on va le disséquer et on va terminer également ces confusions que je n'ai pas pu terminer ce matin. Mais je vous encourage à y participer parce qu'on a besoin de vous. Le Seigneur a besoin de vous. Ce n'est pas moi, Gérard Gaud, qui dit « Tiens, ce serait bien qu'on soit 50 de plus. » C'est Jésus qui vous dit « J'ai besoin de toi. » Croyez-moi, Jésus a besoin de vous également pour participer à son œuvre. Je vais demander au pasteur Olé de bien vouloir venir à ma place. J'aimerais qu'il prie. Qu'il prie par rapport à cette prédication. Voilà, cet après-midi, il y a le deuxième culte. Il y a le moment de jeûne et prière. J'aimerais y rester, mais je sais que je ne peux pas. Physiquement, je ne peux pas. Mais je vous encourage à le faire, s'il vous plaît. À prier pour les frères et les sœurs, et surtout les frères et sœurs persécutés. Voilà, monsieur Olé, si vous voulez venir à ma place, s'il vous plaît. Voilà, unissons-nous à notre frère et prions avec lui. Prions avec lui pour que vraiment nous ne soyons pas séduits.